personnage de Miles Davis a pu être assez profond.
Sonne encore là. Bonjour. Bonjour, je vous invite à prendre place et à un petit instant de recueillement. Merci à nos deux Xavier, un Perrin et un Schmitt, qui nous introduisent dans ce temps. Nous voici rassemblés, accueillis par Dieu, accueillis pleinement, quelle que soit notre condition personnelle, quelle que soit notre condition familiale, quelle que soit notre situation professionnelle, quelle que soit notre humeur, quel que soit notre degré de foi ou d'incroyance, accueillis pleinement par Dieu, là où nous en sommes, dans notre cheminement et nos questions. Est-ce qu'on est appelé à laisser les soucis, nos soucis à la porte quand on vient à l'église? On dit des fois ça, je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils peuvent venir là, mais on va tourner nos regards vers Dieu. Et peut-être que ça va aussi changer notre manière de voir nos soucis ou nos problèmes. et puis on est là pour louer Dieu. Bon, louer, c'est un mot un peu patois de Canaan, hein. Je ne sais pas comment il faudrait dire ça en français courant. On contemple, on remercie le Seigneur, on tourne nos regards vers ce Dieu qui nous aime et qui nous accueille. Ben, pour que ça nous transforme, nous, pour que dans la semaine qui vient, on puisse aussi regarder les autres comme des personnes accueillies par Dieu, comme des personnes créées en image de Dieu. Voilà, on vient contempler Dieu pour que ça nous transforme aussi à son image. Alors merci encore une fois à tous ceux qui ont contribué à préparer ce culte. Il y a des gens à la technique, il y a peut-être des gens qui sont venus nettoyer cette semaine, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le programme. Il y a ceux qui ont préparé la Sainte Cène, il y a toute cette équipe musicale. Et il y a chacun de nous, chacun est participant à sa manière. Voilà, nous allons prier ensemble pour remettre ce temps au Seigneur. Merci notre Dieu pour ta présence. Merci parce que tu es présent parmi nous quand nous sommes rassemblés. Ouvre nos cœurs pour que chacun de nous puisse recevoir quelque chose qui est significatif pour sa vie. Quelque chose de ton amour, quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui nous fasse vivre, qui nous permette d'accueillir les autres, qui nous permette de pardonner. Sois avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout à l'heure, c'est Claude Bécher qui nous apportera le message. Et puis Philippe Anchaud a été invité à donner la prédication dans la paroisse de Versoimy de l'Église libre. Voilà. Alors, place à l'équipe qui nous a préparé un temps de louange.
Merci, Sylvain. Bonjour tout le monde. Le premier chant qu'on vous propose, qu'on va prendre ensemble, c'est un chant avec des paroles ahurissantes. On a répété ensemble, j'écoutais les paroles, je me disais, mais est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on chante au Seigneur Jésus ? Ça s'appelle « Jésus, je te suivrai », c'est un Dieu. C'est le jet de 1026 pour vous orienter. C'est un livre, ce que je veux dire. Dans la joie, quand le soleil lumineux sur les monts, ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. Et ça continue dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Dans le deuil, quand mon âme sombre, vous savez, au cathé, on a parlé pas mal de choses, ça me fait du bien de suivre le cathé un petit peu à mon âge, parce que les choses sont s'y rentrer dans le crâne. Et c'est bien s'y répéter plusieurs fois. Et il y a quelque chose qui est complètement fou, c'est que dans la Bible, les disciples de Christ, ceux qui avaient la foi la plus forte, Pierre, qui disait, ouais, Seigneur Jésus, moi, jusqu'à la dernière, moi je mourrai pour toi. Il s'est dégonflé complètement. Moi, ça m'interpelle de changer dans le deuil, de chanter dans le deuil comme mon âme sombre, Jésus, je te suivrai. Et je crois qu'on a une différence fondamentale avec ce qu'ont vécu les disciples du Christ avec lui et puis de ce qu'on vit aujourd'hui. Et cette différence fondamentale, c'était cette promesse du Christ qu'il ne nous laisserait pas seuls. Nous laisserait avec son esprit. Et pour chanter ça, moi j'ai vraiment besoin qu'il m'accorde un esprit, parce que tout seul je ne peux pas le faire. Et je vous invite vraiment dans votre cœur à inviter le Seigneur Jésus, à inviter son esprit à venir nous inviter tous, parce que sans lui, on est moins que rien du tout. Parce que les plus forts parmi nous, ils s'écroulent au moins claquement de doigts. Mais avec l'esprit du Seigneur, je crois que tout est possible. Je crois que moi je suis capable de rien. Avec son esprit, tout est possible. Et je crois qu'on peut chanter ce chant-là dans la foi et puis dans l'espérance du Saint-Esprit du Seigneur Jésus. Je vous invite à vous.
Je veux renaître. je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre. Je veux être celui que tu veux que je sois. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix. Au son de sa voix, ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, il règne. Sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Ô Dieu, tu es grand. Chantons. je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître, et je me mets soumettre à ta volonté. Que j'espère, Dieu de la paix, Dieu de bonté,
Dieu de majesté, je t'adore, je t'adore.
Je vois qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont vécu cette première partie de culte parmi nous et qui vont continuer le culte en bas, je pense, ou bien il y a des moniteurs. Qui sont les moniteurs? On va prier pour vous et pour les enfants. Alors, il y a un petit bruit de fond là, voilà, merci, ça va mieux. Seigneur, nous voulons te remettre ces enfants, nous voulons te remettre ces moniteurs qui vont passer du temps avec eux. Nous voulons te demander qu'eux aussi puissent vivre quelque chose, recevoir quelque chose de toi pendant ce temps, à travers des jeux, à travers des paroles, à travers des animations. Parce que, voilà, nous sommes tous ensemble devant toi, tous accueillis, quel que soit notre âge. Sois avec nous tous. Amen. Voilà, les enfants, vous pouvez rejoindre les salles d'en bas. Voilà, j'invite maintenant Claude Bécher à venir partager ce que le Seigneur lui a mis à cœur. On va peut-être prier aussi pour lui. Voilà, Seigneur, nous voulons te dire merci de nous avoir envoyé Claude comme pasteur de notre communauté. Nous te remercions d'avance pour ce que tu lui as mis à cœur de partager dans les perles de l'Évangile, pour nous interpeller, nous faire vivre, et permet que chacun de nous puisse être rejoint, recevoir quelque chose de ta part ce matin. Amen.
Merci. À mon tour de vous saluer, frères et sœurs. Je veux te suivre, faire ta volonté, c'est ce que nous avons chanté. La première des choses qu'il faut retenir, c'est que sa volonté, c'est que nous vivions libérés pour être capables d'aimer. Une fois qu'on a retenu ça, tout le reste, ça se décline facilement. Nous vivons le temps du carême, vous savez ça? Je ne sais pas ce que vous en faites. Nous allons réfléchir dans ce temps du carême des tentations de Jésus, ou plutôt de l'épreuve de Jésus au début de son ministère, entre un baptême extraordinaire et l'appel des premiers apprentis, les disciples. Il y a dans les évangiles ce récit de la tentation de Jésus au désert. Alors, bienvenue dans le désert. Dans le désert, il y a un avantage. C'est qu'on ne joue pas un jeu. C'est que ce que nous sommes nous réapparaît avec ce qui se passe en nous. Et j'espère que vous choisissiez vous aussi, dans le cadre de votre vie que je ne doute pas surbookée, des temps de désert, des temps de vérité. Alors un carême. Ce mot carême vient du latin, vous allez voir, ça va nous rendre savants, quadragésima. Quadragésima. Carême. 40 jours. 40 jours avant Pâques. Le carême est traditionnellement, dans la tradition de l'Europe chrétienne, un temps de repentance, que j'espère intelligente. Un temps de jeûne aussi, où on essaye de faire la distinction entre nos appétits immédiats et nos appétits fondamentaux, parce qu'on risque de les confondre. C'est aussi un temps d'action particulièrement propice à faire des actions un petit peu folles, du style action de bienveillance. Ça s'entraîne. C'est un temps spécial, le temps de carême. Pour les chrétiens, c'est une manière aussi de se souvenir qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être détrônées. Détrônées. Des choses qui sont sur des trônes qui ne doivent plus régir, parce que sinon c'est pas comme la reine d'Angleterre, hein, il y a un réel pouvoir quand on est sur un trône, détrôné, et d'autres qui doivent être retrônés. C'est le but de la louange d'ailleurs. Ces 40 jours symbolisent quelque chose qui est important si vous connaissez l'Ancien Testament. Pardon pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais pendant 40 années, Israël libéré, les Hébreux libérés de l'esclavage d'Égypte, vont râler dans le désert. Et les 40 jours, c'est une manière de surmonter par Jésus les mêmes tentations qu'avait le peuple de Dieu dans le désert. Alors, nous allons lire tout à l'heure ce récit de la tentation et voir quelles sont les analogies avec nous. Régir. Qui dirige le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui dirige le monde aujourd'hui? Autrement dit, qu'est-ce qui me fait courir? C'est une bonne question dans un culte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui me fait me mouvoir? Qu'est-ce qui me fait courir? Alors, il y a une image ici, je ne sais pas s'il y a des billets suisses, oui, il y en a, hein? C'est un vieux. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de voir que les tentations sont plus une invitation à essayer de voir qu'est-ce qui me fait bouger pour détrôner ce que je ne souhaite pas qui trône sur ma vie et qui fait une sorte de prolongation de l'esclavage d'Égypte dans ma vie. Il y a des gens qui... Il y a des puissances très belles d'ailleurs, qui sont normalement création de Dieu, qui, quand je les mets comme divinité dans ma vie, elles cassent beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, il y avait dans le temps le pharaon esclavagiste, mais il y a aussi ce que Jésus a appelé l'argent personnifié qui fait courir les gens plus qu'on le croit. Non ? Autrement dit, vous savez, c'est ce genre d'idole qui, quand on le suit, n'en a jamais assez. Et ça pose la question de l'argent. C'est quand assez? Parce que si on ne se pose jamais la question, on va courir là après. Et on va mourir frustré parce que ce ne sera pas assez. Pourquoi, en fait? Pourquoi accumulons-nous? Autrement que parce que nous sommes des anxieux qui avons surtout le souci d'assurer notre sécurité. Il y a aussi des gens qui adorent non pas l'argent, mais la puissance et la force. C'est pour ça qu'il y a le dieu Mars. La sécurité derrière le blindage. Il y en a pour qui la divinité principale, c'est le dieu d'un plaisir immédiat où je suis le seul à en profiter, et j'ai mis Vénus. Ça vous dit rien? Aujourd'hui, on n'a plus des temples dédiés à ces idoles-là, mais ça nous fait toujours courir. En fait, ça nous fait plus courir qu'on le croit. Alors, j'ai pris une photo de nous tous. J'ai ôté la partie du dessus parce qu'il y avait le même sigle que ça. Je suis un consommateur d'un tas de choses. En fait, je suis un être de passion. Et ça me fait courir. Non ? Si. Nous sommes tous à la quête de quelque chose au fond de soi. Et il vaut mieux faire le ménage pour dire « Je choisis ceci, c'est pour ma libération ». Il y a des forces de conformisme qui sont à l'œuvre. La Bible, quand elle nomme les forces du mal, elle parle du péché, donc c'est moi et mes actions, mais elle parle aussi de daimon, qui sont l'équivalent grec de ce qui fait courir, les idoles des nations. Ou alors, quand ce n'est pas des micro-forces comme daimon, c'est des macro-forces comme les autorités, les puissances, les dominations. La Bible, elle ne dit pas qu'il n'y a qu'un problème intérieur, moi et ma morale. La Bible, elle dit qu'il y a moi et ma morale et ma responsabilité, mais il y a aussi des micro-forces d'influence et des macro-forces d'influence qui demandent que de détrôner Dieu dans ma vie. Ça va, je vous ai perdu là. Avec Jésus, tout avait si bien commencé. Il est baptisé du baptême de Jean le Baptiste. Et une voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir » dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, 17. Ça commence super bien. Le fils bien-aimé, c'est un roi. Vous allez me dire « Mais maintenant, ça a concerné Jésus, cette tentation, mais moi, c'est pas un roi. » Et pourtant, l'Écriture nous dit que quelque part, je suis un roi et une reine, une sorte de co-régent. C'est ce que la Bible appelle à la création image de Dieu. Et voilà ce qui se passe dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, et au verset 1. « Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Il y en a qui sont conduits par l'Esprit dans des endroits où on exalte les émotions, mais là, je peux vous dire que c'est l'inverse. On n'exalte pas les émotions, on la joue franc jeu, c'est cash, c'est comme tu es, avec tes araignées et tes chauves-souris, dans le désert. Autrement dit, j'aimerais juste vous rendre attentif, ça se passe à ce moment-là, avant d'annoncer le règne de Dieu, Jésus n'attend pas l'irruption du mal pour subir le mal, il confronte le mal en disant « voici ce que je veux dans ma vie ». J'ai connu des personnes âgées qui avaient plus de 80 ans, 80, qui ont découvert ça. C'est juste fantastique, mais c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait à 16 ans. Et le diable, ça semble archaïque, hein, on n'utilise pas le mot diable quand on est à l'entreprise ou à l'école, hein, si. Mais on a tous des manières de dire qu'il y a des forces à l'œuvre. Et depuis le siècle précédent, avec les guerres, on sait très bien qu'il y a des forces de destruction à l'œuvre. Où des papas et des mamans apparemment très morales ont fait des trucs juste par obéissance à des intérêts supérieurs qui n'étaient pas si morales que ça. Si tu es le roi de Dieu, autrement dit, si tu es le Messie sauveur, alors, ça c'est la tactique Si tu es un enfant de Dieu, si tu es l'image de Dieu en toi, alors, joue à ça. Le diable n'a rien créé, nous l'avons dit. Hein. Il ne sait pas créer, parce qu'il y en a un seul qui crée. Il ne peut que tordre. Et pour nous, c'est l'occasion, dans ce temps de carême, de relire maintenant le récit. Le diable veut détourner Jésus de sa raison d'être. S'il avait cédé à l'une des trois tentations, Jésus n'aurait pas gagné nos cœurs. Autrement dit, le diable veut éviter une chose, c'est que la puissance de service se mette à l'œuvre et guérisse les puissants de ce monde. Nous lisons ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Nous sommes entre le baptême et le ministère. L'annonce l'évangéliste Jésus qui dit « Le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous !» Après avoir jeûné 40 jours, vous avez déjà essayé ? Moi pas. Moi, un repas, ça me suffit. Hein. Enfin, je n'ai pas attendu votre réponse. Non ? Oui, ça va, je peux continuer. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Moi, j'aurais commencé. Nous sommes des êtres d'appétit, de désir. Il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Mais Jésus répliqua, il est écrit, c'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Alors, autre tactique, c'est pas marqué comme ça, c'est moi qui le dis. Alors, verset 5, le diable l'amena dans la ville sainte, la place sur le faîte ou la tour du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter le pied, du pied quelques pierres. Jésus lui dit, il est aussi, le diable sait citer la Bible, méfiez-vous. Les pharisiens aussi savent citer la Bible. Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable, troisième tactique, l'amena encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus lui dit, fous le camp, Satan. C'est ma manière, hein. Parce qu'il ne faut pas être poli à ce moment-là. Retire-toi, Satan. Cette phrase, ça vous dit quelque chose? Ailleurs dans l'Évangile? À qui il le dit? Parce que Pierre lui avait dit quoi? Ça ne t'arrivera pas, moi je suis là, mon ami. D'accord? « Retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur, ton Dieu, tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchent, et ils le servaient. Là, il y a du pain à manger, parce qu'il avait faim, souvenez-vous. Hein, je ne sais pas comment vous imaginez, ils le servaient. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu, nous allons essayer de nous l'approprier, si vous voulez bien. En grec, le péché, c'est d'abord ce qui manque, la cible. Pour nous, il ne faut pas très être introspectif et se promener sans cesse avec une sorte de miroir qui voit tout ce qui ne va pas bien en soi. Il ne faut pas regarder le miroir, il faut regarder au travers d'une fenêtre et regarder le but. Pourquoi j'ai été créé ? Parce que je suis une image de Dieu. Ça change tout à fait les choses. On parle du péché autrement. La cible, c'est d'être libéré, d'honorer le Seigneur et d'aimer le prochain. Ce faisant, je trouve ma place. Si je regarde les tentations qui sont là, ordonne à ces pierres de se changer en pain, c'est assez magique, hein ? Et on se souvient que César, à l'époque de Jésus, calmait la foule en faisant venir du pain d'ailleurs, en distribuant les gens pour qu'ils ne se rebellent pas. La deuxième tentation, jette-toi en bas, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est très magique, hein, non ? C'est très miraculeux. Impose-toi par le miracle. Tu es capable, puisque tu es Dieu, fais-le. Impose-toi par le miracle, les gens vont se convertir, vous croyez ? Pas forcément. Ni l'un ni l'autre ne va changer le cœur. Mais c'est déjà pas mal de recevoir à manger. Et ce serait pas mal si, en se jetant en bas, on voit que les anges le déposent gentiment et tout le monde fera les genoux flexion qu'il faut. Finalement, il est le Messie, non ? Et le troisième, tout cela je te le donnerai si tu tombes à mes pieds et m'adores. Donc on voit les trois, du pain, le miracle et le pouvoir. On retrouve ces trois choses typiquement. Quelles sont les grandes menaces pour ma vie ? Ça a toujours en rapport avec l'avoir, le pouvoir, le paraître et le jouir. C'est les quatre grands domaines où le Seigneur doit faire du ménage. Non pas que le Seigneur est contre l'avoir, il est contre la domination de l'avoir. Non pas que le Seigneur est contre le pouvoir, il est pour le pouvoir qui sert, c'est autre chose que le pouvoir qui contraint. Non pas que le Seigneur est contre, qu'est-ce que j'avais encore dit ? Le paraître. Il y a une manière décente et correcte de se présenter. Mais c'est autre chose d'être toujours conduit par la séduction. Non pas que le Seigneur est contre la jouissance. Je crois que j'ai déjà prêché là-dessus une fois, non ? Ceux qui étaient là se souviennent. Il n'est pas contre, il nous donne le mode d'emploi, mais quand je suis dominé par une jouissance égoïste, c'est idole, ça casse, et moi et les autres. Alors, prenons ces tentations. La voix du Messie sauveur social ordonne à ces pains qu'ils deviennent, que ces pierres, qu'elles deviennent du pain. Et du coup, si vous étiez juif et que, deuxième condition, vous connaissez l'Ancien Testament, vous savez très bien ce qui s'est passé dans le désert où il y a des pierres au sujet du pain. Quand ils étaient 40 années, il y a eu la manne. De qui ça venait ? Du Seigneur ! Et des cailles aussi, des fois, quand ils râlaient trop. Et de l'eau aussi, hein. Alors, regardez, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, le tentateur vint lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est aussi une sorte de magie pour toi. Autrement dit, c'est la distribution d'un roi qui le fait d'abord pour soi. Il a faim. Il veut d'abord calmer lui avant de calmer les gens sur lesquels il régit. Il répond, il est aussi écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est là qu'on se souvient de quelque chose, c'est un vitrail d'église, hein. Je ne suis pas sûr que le Satan ait eu cette tête. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, il est dit « Souviens-toi des marches que Yahvé, ton Dieu, t'a fait pendant 40 ans dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. » Des fois, il y a des épreuves qui sont là pour connaître le fond de nos cœurs. Sans ces épreuves, nous ne voyons pas clair sur ce qui régit en nous. Et ici, dans Deutéronome 8, versets 1 à 3, ça continue avec ceci. Allais-tu ou non garder ses commandements ? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas seulement le commandement arbitraire. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est « je vais te donner de la manne ». Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est « je vais te faire sortir du désert ». Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est « je vais te montrer qu'avec un rocher, on peut faire sortir de l'eau ». Mais ça vient de Dieu. Et dans le désert de Sin, c'est pas la Chine, c'est Exode 17, c'est le nom de ce désert où était Israël, c'est là qu'on en voit « l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu, sa parole qui donne de l'eau et de la manne et le nécessaire ». Pourtant, le pain distribué, c'est aussi ce que Jésus veut faire. Alors c'est drôle, Jésus veut distribuer du pain et tout à l'heure nous allons avoir un repas de libération qui montre ce qui s'est passé avant la Pâque. Il veut que tout le monde ait accès au pain, c'est clair qu'il veut. Même les redistributions de la pratique économique de l'Église naissante, c'est une attention à tout le monde. Il veut cela, mais pas n'importe comment. Il veut d'abord que le cœur soit touché. La conversion et l'action sociale vont toujours ensemble. Ça, nous le savons, c'est évident dans l'Écriture. Mais il ne veut pas être le Messie qui dirait « Aimez-moi pour ce que je vous donne ». Beaucoup de puissants dans ce monde font des obligés. Je te donne, si tu m'aimes suffisamment, je te donne plus de salaire. Ça fait un système d'obligés. Les gens ne sont pas nécessairement d'accord avec le patron, mais ils se sentent esclaves de ce système. Et c'est précisément ça qui est en question ici. Il ne veut pas être un Messie qui dirait « aimez-moi pour ce que je vous donne ». La récompense économique fonde bien des corruptions. Beaucoup de gens sont capables de faire les crasses, les pires, sur le plan international, pour avoir une récompense économique. Et ils sont rares, les gens qui sont des non-conformistes à la matière. Pour le salut, le cœur doit être touché par la grâce, pas que la bouche. Si Jésus avait dit « d'accord, je fais ce système de redevables économiques, je vais distribuer autour de moi, je vais d'abord en prendre pour moi, mais je vais distribuer autour de moi », nos cœurs n'auraient pas été touchés, mais nos corps auraient été contraints. Ici, nous avons une leçon sur la confiance dans le Dieu de Providence. Pas que nous n'ayons pas à avoir de responsabilité, mais nous, en Suisse, ou en France, c'est pareil, nous vivons avec une phobie de perdre le contrôle de nos vies. Nous sommes au contrôle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point nous sommes au contrôle. Il n'y a presque pas de place pour la providence divine. Il y a juste encore les agriculteurs qui ont la dure leçon de dépendre du Seigneur qui donne la fructification, mais qui donne aussi la météo qu'il faut. Mais sinon, nos rentes, elles tombent. Enfin, nos salaires ou le fait d'être assistant. Nous avons désappris à dépendre de Dieu. Une deuxième tentation. Voilà un retour au miraculeux. Pour s'imposer par la fascination, le diable l'amena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ». Vous ne savez peut-être pas, parce que je vais vous le dire, les gens qui étaient coupables de péché, de blasphème du temps de Jésus, et nous le savons par la Mishnah c'est un des documents hébreux qui datent du IIe siècle après Jésus, nous le disent. Et d'ailleurs, vous connaissez une personne qui a été jetée d'une tour, qui était un chrétien ? Jacques. Oui. Alors, il est important de voir le péché. Jacques. Est-ce que Jacques? Je vérifierai, d'accord? Du coup, j'ai lapidation jetée d'une tour, mais enfin, à voir, d'accord? Il y en a un qui a été jeté d'une tour. Se prendre pour Dieu, c'est un péché blasphème. Se dire le Fils de Dieu. Et ici, jeter du haut du temple peut signifier deux choses. Soit on le jetait vers le côté de la val de Hinnom, la GN, la vallée de détritus, du haut d'une tour, soit alors c'est un coup de s'imposer dans sa messianité par l'extraordinaire et le miraculeux. Et ici, Jésus répond, tu ne provoqueras ou tu ne défieras pas le Seigneur ton Dieu. Je crois ici la tentation de la fascination est très importante. Nous n'avons pas à séduire, nous avons à témoigner. Vous vous souvenez du chanteur qui chantait « Show must go on » Non, c'est de ma génération. Freddie Mercury, qui était malade du sida, il a chanté ça juste avant de mourir, mais la fascination doit continuer, ça doit continuer, must go on, doit se poursuivre. Le salut dans le paraître, Jésus était aussi tenté par ça. Jésus était tenté comme étant un sauveur économique et social avec le pain. Il était tenté aussi d'en imposer par le miraculeux. Il ne l'a pas fait. En fait, il va mourir, comme quand on est jeté du haut d'une tour. Il va mourir, mais il l'a choisi. Il va être sauvé, mais ce n'est pas par le miraculeux. C'est par l'intervention de Dieu en le ressuscitant d'entre les morts. Le temple, c'est bien de là qu'il doit régner. Pourtant, c'était une vraie tentation, le temple, à partir du nombril du monde. Régner, mais pas de cette manière. Prouver sa messianité en mettant plein les yeux, comme lorsque le peuple a voulu à Massa mettre Moïse à mort. Tout ça, c'est une tentation à laquelle Jésus va résister en disant « Oui, je veux régner, mais pas comme ça ». Vous savez, si on ne le dit pas à temps, on risque de se surprendre au courant de sa vie en train de faire comme ça. Si on ne le dit pas à temps, on est rattrapé par certaines réalités qui se trouvent en soi. Le cœur ne serait pas touché si Jésus était venu en s'imposant par le miraculeux dans Jérusalem. Nos corps seraient touchés parce qu'on serait séduit, mais nos cœurs ne serait pas touché. Et Jésus a choisi de subir entièrement la mort sur la croix parce qu'il a donné sa vie et la croix, c'est comme son trône. C'est sa manière d'aimer jusqu'au bout, de servir. La troisième tentation, c'est le pouvoir politique. Je dirais même que c'est peut-être la plus grande. Une fois que celle-ci, il y aura résisté, le diable va abandonner la chose. Et détrôner ce pouvoir, c'est quelque chose de très libérant. Certes, le diable va reprendre Jésus à un moment donné via Pierre, nous l'avons dit, à Gethsémané, peut-être aussi avant la croix. La tentation de fuir dans le désert, plutôt que de rester à Jérusalem, était une vraie tentation pour Jésus. Le diable l'amena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Mes amis, power. Et lui dit, je te donnerai tout cela. En fait, il est prince de ce monde, mais un prince qui usurpe ce droit. Et là, Jésus va résister. Oui, power, d'accord, mais pas comme ça. Oui, jusqu'aux nations, d'accord, mais en faisant des disciples, pas en imposant sa loi aux autres, pas en dominant. Et la réponse de Jésus, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable le laissa et les anges vinrent le servir. Quand je regarde au pouvoir, le pouvoir qui grise, la question de la domination, là nous avons une parole tirée du psaume 2, je ne le lis pas maintenant, ça vaut la peine. Il est dit que le Fils de Dieu aurait la domination sur les nations dans le psaume 2 et dans Ésaïe et dans beaucoup de choses de l'Ancien Testament, mais pas au prix de l'adoration de Satan. Et c'est là que précisément qu'est le piège. Et si on te donne le pouvoir au prix de faire du mal? C'est ça la question qui se pose. Au prix de faire du mal. Pourtant, c'est bien le monde que Jésus aime. Le monde et les nations, c'est bien ce qu'il aime. Vous saisissez, les trois étaient des réelles tentations de choses bonnes, mais que le diable va réussir à tourner. L'utilisation du pouvoir de contrainte des cœurs est contraire à sa mission. Oui, le pouvoir, mais le pouvoir comme service. Dans l'Église, il y a une différence. Personne n'est de trop. On donnera de l'honneur à ceux qui en manquent. La conversion des pouvoirs est très importante. Si tu m'adores, dit Satan, nature du pouvoir de contrainte usurpée par Satan. La foi en un seul Dieu fait des non-conformistes où le pouvoir est service de Dieu et de tous les humains. J'en arrive à des conclusions qui me semblent importantes après avoir vu les trois. Frères et sœurs, pour nous aussi, il nous faut faire du ménage. Nos cultes réguliers sont utiles pour nous recentrer sur celui qui est le seul que l'on adore. Et j'apprécie le moment de louange pour ça. Pour détrôner un certain nombre de forces de mal, nous pouvons introduire des temps de silence et de désert en nous mettant à l'écoute de ce qui se passe en soi. Je vais redire cette phrase. Les temps de désert, c'est des temps où on se met à l'écoute à ce qui se passe en soi. On observe ce qui nous meut, nos affects, nos impulsions, nos sensations et nos pensées, et on prie Dieu de nous aider à ce que toutes ces choses-là le servent. Alors, les tentations aujourd'hui, assurer son avenir, défier la chronique et occuper un poste clé, rien contre les postes clés, mais au prix de quoi ? C'est ça qui est important pour nous aussi quand on essaye d'actualiser cela pour nous. Il y a un penseur qui s'appelle N.T. Wright qui a dit la chose suivante qui peut nous aider. Notre combat à la suite du Christ, sécurité, fascination et pouvoir ne doivent jamais se faire au détriment du respect de Dieu et du prochain. Notre combat à la suite du Christ pour la sécurité, la fascination et le pouvoir ne doivent jamais se faire au détriment du respect de Dieu et des prochains. Voici la phrase que je vous laisse avant les slides conclusives, c'est au milieu. Lorsque les humains pêchent, ce que nous faisons tous d'une certaine manière, nous resterons des apprentis jusqu'à la fin de notre dernier souffle. D'accord ? Une fois qu'on a dit ça, lorsque les humains pêchent, ils livrent à des forces non divines. Ils livrent à des forces qui ne sont pas divines. Le pouvoir, le sexe, le magique, des forces non divines, un pouvoir et une autorité que ces forces n'ont jamais été supposées avoir. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que guérir de l'idolâtrie signifie ? C'est de laisser le Seigneur de la vie au milieu de notre foi, remercier Dieu pour les biens qu'il nous donne, mais ne jamais en faire des idoles de notre vie. Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approche et le servait. C'est un soulagement réel. C'est une vie libérée. Que nos vies soient libérées. Quand Jean, dans son épître, a dit « Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable », ça a aussi à voir quelque chose avec nous. 1 Jean 3, verset 8. Ainsi, imprégnons-nous de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, du royaume de Dieu en Jésus. Détrônons les puissances. Nous pouvons le faire en évitant des sollicitations. Je vous raconte pour terminer une petite histoire. La voici. C'est un enfant qui dit à « Maman, je peux sortir !» C'était l'été. « Oui, dit la maman, mais tu ne vas pas te baigner, je ne veux pas. »« D'accord, maman, je sors !» L'enfant sort et la fin d'après-midi, il rentre avec les cheveux tout mouillés. Et puis la maman dit « Mais tu étais te baigner ?» Alors il dit « Oui, maman, mais... T'étais tout nu ?» Il dit, « Non, maman, j'avais amené mon maillot de bain avec moi. » Que le Seigneur nous aide par l'Esprit à ne pas jouer avec lui et qu'il nous libère. Amen. Un chant va nous aider à recueillement.
Voilà, ça y est, Jésus et son équipe d'apprentis sont arrivés à Jérusalem, ça va être la dernière fois, pour célébrer la Pâque, cette fête la plus importante, en communion avec tout le peuple juif. Mais les grands chefs ont déjà décidé de l'éliminer, d'éliminer ce prédicateur gênant. Et puis Jésus et ses disciples partagent ce dernier repas, lourd de sens. Les disciples ne comprennent pas encore où ça mène. Et dans quelques heures, ils vont se retrouver au jardin de Gethsémané et Jésus fait face à l'ultime tentation. Il s'exprime dans sa prière. Seigneur, si c'est possible d'échapper, mais que ta volonté soit faite. Il ne va pas à la croix le cœur léger ou plein de rage comme certains kamikazes d'aujourd'hui, mais le cœur plein d'une tristesse mortelle, nous dit le texte. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples et il leur dit « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je le boirai avec vous, le vin nouveau, dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Prions avant de partager ce repas. Merci Seigneur pour cette vie donnée par laquelle nous avons la vie et nous pouvons être libérés. Libérés du péché, libérés de nos chaînes, libérés de nos esclavages. Merci parce que tu es présent avec tant de chrétiens qui aujourd'hui partagent aussi ce repas, certains dans la liberté, certains dans la crainte de la persécution. Et accorde-nous ta présence pour que nous sachions recevoir, te recevoir et vivre de ta vie. Amen.
Amen.
Alors, nous allons distribuer le pain. Peut-être que... Est-ce que les musiciens peuvent nous aider à distribuer? Le pain passera dans les ronds. Le vin est servi dans la partie extérieure, enfin, la couronne des plateaux. Et au centre, il y a du jus de raisin, pour ceux qui préfèrent. Et ceux qui souhaitent prendre la coupe directement, il suffit de lever la main et on vous l'apportera. Est-ce que j'en prends deux ou bien ? Chacun se sent libre de partager une prière, même quelque chose fait écho. Nous allons terminer ce moment avec la prière que Jésus nous a apprise, mais j'aimerais juste faire une petite remarque. La prière que nous prononçons ensemble, c'est la version liturgique que nous prenons, que tous les chrétiens peuvent dire ensemble. Et vous savez peut-être qu'il y a eu un petit changement dans la version officiellement depuis le 3 décembre 2017. Mais justement, ça vaut la peine de le dire aujourd'hui, parce que c'est sur le problème de la tentation qui est un peu au cœur de cette prière. Et c'est vrai que la version qu'on avait l'habitude de réciter ne nous soumet pas à la tentation. Il y a le petit risque qu'on imagine là derrière que c'est Dieu qui nous tend un piège en nous soumettant à la tentation. Alors, je ne sais pas si l'autre traduction est meilleure. La nouvelle traduction proposée liturgique, c'est « ne nous laisse pas entrer en tentation » au lieu de « nous soumet pas »,« ne nous laisse pas entrer en tentation ». Parce que c'est sûr, comme on nous l'a dit, comme Claude nous l'a bien dit, la tentation, l'épreuve est une occasion, est un moment de vérité, mais ce n'est certainement pas Dieu qui vient nous tendre un petit piège malin pour nous faire tomber. Et justement, on prie pour que Dieu nous permette de surmonter l'épreuve et la tentation. Alors, prions cette prière. Voilà, merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous aurons le temps de l'offrande, pendant lequel nous chanterons le chant « Nul n'est comme toi », avec l'aide de notre équipe de musique. prions. Seigneur, merci pour cette occasion de participer par cette offrande à la mission que tu nous confies. Merci pour les biens que tu nous donnes jour après jour. Donne-nous ta sagesse dans l'usage de nos biens dans nos vies, et de l'usage des biens dans l'Église pour la mission que tu nous confies, d'être tes témoins de ce message libérateur autour de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, pouvez-vous asseoir. Il y a le ministre des Annonces, notre président du Conseil qui va vous donner les annonces du jour.
Alors, je cède d'abord la parole à Philippe Cornu pour une annonce première. Merci beaucoup. Je vous apporte les salutations et toute l'amitié de Roger et Dominique Sewell. Nous sommes allés les trouver lors d'un petit voyage en France. Ils vont très bien. Nous avons visité leur lieu de vie actuel dans le village d'Entrepierre. Nous avons visité ce village d'Entrepierre, leur lieu de travail en fait, qui est un lieu magnifique. C'est tout restauré, c'est au calme, c'est splendide. Et ensuite, pour le dessert de notre visite, nous avons pu voir la maison qu'ils viennent d'acquérir. 3000 m² de terrain autour, superbe petite maison, avec beaucoup de travaux à faire. C'est un peu comme l'ouvrage de Peter Mayle, Une année en Provence, pour ceux qui savent. L'électricien doit passer vendredi, mais normalement, il sera là. Deux mois après, normalement, il devait passer. Les travaux, il y en a pour un temps, mais ils sont très contents et le site est magnifique. Voilà.
Voilà, et je donne encore la parole à Francine pour une annonce particulière également.
Merci Michel, annonce sauvage, j'ai oublié de m'annoncer. Alors, une soirée congolaise qui aura lieu le jour de la femme, le 8 mars. C'est une soirée qui est organisée par le Lions Club de Genève et c'est en faveur d'Asafi. Ce sera une soirée payante à 35 francs l'entrée. Il y aura un repas dînatoire congolais avec des contes et de la musique. Voilà, moi j'ai des billets à vendre si jamais, c'est 35 francs le billet pour participer à cette soirée. Je vous remercie. Oui, ce sera ici, dans la salle ici à Mérin. Oui, pardon, à l'église évangélique de Mérin. Oui, pardon.
Voilà, alors on passe au slide qui était prévu. Alors, ce mardi, le dernier élément de la première série d'ateliers bibliques sur le culte dans tous ses états, Jésus, le culte dans la synagogue. Et puis, vous trouverez le présentoir à l'extérieur, le flyer pour la seconde série de cultes qui sont autour de ingrédients et créativité qui nous seront apportés par David Porter. Voilà, samedi 24 février, ce samedi, une conférence à l'église évangélique de la Pélisserie sur les origines de la Bible. On peut donner un coup de main en fournissant, slide suivant, une contribution par des sandwichs ou autre chose pour la collation qui suivra. Le mardi 27 février, le fil d'argent, avec comme orateur Henri Bachet. Plus de renseignements, j'imagine, auprès de Marianne Fund, par exemple. Oui. Mardi 27 février, le soir, la prière communautaire. Et vendredi 2 mars, le colloque, notre assemblée générale à 20h15. Vous avez reçu l'ordre du jour par email. Si vous n'êtes pas dans la liste d'email, il y a dans le foyer les enveloppes avec les convocations et le PV de l'assemblée précédente. Voilà, on est dans ce temps de renouvellement du conseil Vous avez reçu une possibilité de vous exprimer, de faire des propositions de personnes que vous envisagez, que vous imaginez comme pouvant participer au conseil. Ces flyers, ces petites propositions que vous pouvez remplir, vous pouvez les déposer. Il faut que je pose le micro pour pouvoir. Voilà la boîte officielle, n'est-ce pas, pour déposer vos propositions de membres, de personnes que vous imaginez pouvoir participer au conseil. On mettra cette boîte dans le foyer et vous aurez jusqu'au 4 mars, c'est pas beaucoup de jours encore, hein, jusqu'au 4 mars, avant que ces propositions soient dépouillées par le groupe qui s'occupe de la recherche d'un nouveau conseil. Voilà, nous avons dans nos locaux cette garderie La Framboise, qui est une association indépendante de notre Église, mais où nous désirons que l'Église soit partie prenante et nous recherchons des personnes qui puissent faire partie s'inscrire pour être membre de l'association et participer à l'Assemblée Générale. C'est une manière pour nous d'être partie prenante dans la gouvernance aussi de la Fondation. Vous pouvez, si ce rôle vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec, par exemple, Catherine Meyer ou avec Claude Parnigoni, qui sont présidents et secrétaires actuellement de cette association, de la fondation, de l'association de la Framboise. Voilà, on vous rappelle qu'on a parlé... En introduction, Sylvain a fait remarquer que la salle était propre. Effectivement, la salle est propre parce qu'il y a une cinquantaine de personnes qui s'en occupent au travers d'une rotation. Hein, c'est des groupes de 4-5. Il y a deux groupes qui sont en formation, où on cherche encore à compléter. Vous trouvez à la sortie, sur une feuille jaune, ces deux groupes qui sont en formation et qui attendent votre renfort. On peut passer au suivant. Pardon ? Alors, sur les deux groupes en formation, il y a deux hommes et une femme, actuellement. Donc, vous voyez, là, il y a un homme et trois femmes. Oui, la proportion n'est pas très bonne, je suis d'accord. Voilà. Merci de votre engagement. Et puis, il y a une possibilité de baptême.
Merci, Michel. Alors, nous prévoyons des baptêmes en juin. C'est encore à confirmer, peut-être le 17 juin, dimanche. Pour cela, nous aurons quelques soirées de préparation au baptême ou simplement pour dire de quoi il s'agit pour les gens qui hésitent encore. Le baptême, c'est une volonté de s'identifier à Jésus-Christ, d'être à son profit mais à son service également et de le témoigner, d'en témoigner publiquement. Alors Philippe Anchaud, quand il reviendra, et moi-même, nous prendrons les soirées de préparation en charge et les relations. Merci de vous signaler, soit oralement, soit par des natels ou les e-mails, si vous souhaitez être contacté à ce sujet et puis vous préparer pour des baptêmes. À la fin de cette célébration, j'aimerais dire merci à Sylvain et puis à l'équipe des chanteurs et puis des musiciens de nous avoir conduits et je vous invite à recevoir la bénédiction. Nous nous levons. Aujourd'hui est un dimanche, jour de commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. C'est lui qui nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des apprentis. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Allons dans sa paix et dans sa joie. Amen. Bon dimanche à chacun et chacune.